Chapitre 36. Je battis des paupières et ouvris les yeux, désorienté pendant quelques secondes, à la vue de l'immense pénombre de la basilique de Saint-Pierre sur Passem. Monseigneur Édouard et le père Paul Duret étaient penchés vers moi à la lueur des cierges, leur expression chargée d'intensité. Combien de temps suis-je resté endormi? J'avais l'impression que quelques secondes à peine s'étaient écoulées et que le rêve n'avait été qu'un miroitement d'images du genre de celles qui traversent l'esprit entre le moment où l'on est paisiblement détendu dans son lit et celui où l'on tombe dans un sommeil profond.
10 minutes, me répondit le prélat. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu?
Je ne voyais aucune raison de ne pas le faire. Lorsque j'eus fini mon récit, Monseigneur Édouard se signa.
Mon Dieu! L'ambassadeur du technocentre conseille à Gladstone de transférer tout le monde dans ses galeries?
Duret posa la main sur mon épaule. Après mon entretien avec la voix authentique de l'arbre-monde sur le bosquet de Dieu, je vous rejoindrai sur TC carré. Il faut que nous convainquions Gladstone de la folie que représenterait un tel choix. Je hochai la tête. Il n'était plus question pour moi d'accompagner Duret sur le bosquet de Dieu ni sur Hyperion. « C'est entendu, lui dis-je. Mettons-nous en route immédiatement. Est-ce que votre porte du pape peut me conduire sur TC carré ?» Le prélat se leva, hocha la tête, puis s'étira. Je compris soudain qu'il était très vieux et que les traitements Poulsen ne l'avaient jamais touché.
« Il y a un accès prioritaire, »
me dit-il avant de se tourner vers le père Duret.
« Paul, tu sais que je t'accompagnerais si je le pouvais, mais les funérailles de sa sainteté, l'élection d'un nouveau saint-père... Curieux comme les impératifs quotidiens persistent, même dans la perspective d'un désastre collectif. »
Ajouta-t-il avec un petit grognement pathétique.
Même ici, sur Passem, nous n'avons qu'une dizaine de jours standards avant l'arrivée des barbares. Et pourtant, il faut bien.
Le haut front de Duret luisait à la lueur des cierges.
Les affaires de l'Église représentent bien plus que de simples impératifs quotidiens,
dit-il à son ami.
Ma visite sur le monde des Templiers sera aussi brève que possible. Je rejoindrai ensuite H.C. Verne pour l'aider à convaincre la présidente de ne pas écouter les conseils du centre. Puis je reviendrai vite à tes côtés, Édouard, et nous nous efforcerons ensemble de donner un sens à toute cette confusion qui touche à l'hérésie.
Je l'ai suivi jusqu'à une petite porte qui nous fit sortir de la basilique par une galerie bordée de hautes colonnades. Nous traversâmes, sur la gauche, une cour intérieure. La pluie avait cessé et il y avait dans l'air une odeur fraîche et agréable. Nous descendîmes quelques marches conduisant dans un passage étroit qui communiquait avec les appartements pontificaux. Des membres de la garde suisse se mirent au garde-à-vous lorsque nous entrâmes dans l'antichambre. Ils portaient une armure et un pantalon à rayures jaunes et bleues, mais leurs hallebardes traditionnelles étaient en réalité des armes énergétiques modernes qui n'avaient rien à envier en qualité à celles de la force. L'un d'eux fit un pas en avant et adressa quelques mots à voix basse à Monseigneur Édouard.
« Quelqu'un vient d'arriver au terminex principal pour vous voir, H.C. Verne, »
me dit le prélat.
« Moi ?»
Mon attention jusqu'à présent s'était portée sur les bruits ambiants où prédominaient des inflexions lointaines de prières collectives continuellement répétées. Je supposais qu'il s'agissait de préparatifs pour les funérailles du pape.
Un certain H. Hunt, il dit que c'est très urgent.
Je l'aurais vu dans un instant à la maison du gouvernement. Pourquoi ne pas lui demander de nous rejoindre ici? Monseigneur Édouard acquiesça d'un signe de tête et adressa quelques mots à voix basse au garde suisse qui rapprocha les lèvres d'un relief ornemental de son armure pour murmurer un ordre à son tour. La porte du pape était un petit terminal d'istrance entouré de moulures dorées très ouvragées, ainsi que de séraphins et de chérubins surmontés d'un bas-relief à 5 tableaux, illustrant la chute d'Adam et Ève et leur expulsion du jardin d'Éden. Le tout se trouvait au centre d'une pièce bien gardée, qui jouxtait les appartements privés du pape. Nous attendîmes là, tandis que des miroirs sur chaque mur nous renvoyaient nos reflets pâles et exténués. Legg Hunt arriva, escorté par le prêtre qui m'avait introduit dans la basilique.
« C'est Verne !»
s'écria en me voyant le conseiller favori de Gladstone.
« La présidente veut vous voir immédiatement !»
J'y allais justement. « Mais sachez que ce serait une erreur criminelle que de permettre au centre de fabriquer et d'utiliser cette bombe !» Il cligna plusieurs fois des yeux, ce qui donnait un air presque comique à sa physionomie de basset.
« Vous êtes donc au courant de tout ce qui se passe, Severne ?»
Je ne pus m'empêcher de rire. Un jeune enfant tout seul devant une fosse aux loups voit beaucoup mais comprend très peu. Cependant, il a l'avantage de pouvoir changer de chaîne ou d'éteindre le poste quand il en a assez. Hunt connaissait déjà Monseigneur Edouard pour l'avoir côtoyé dans des occasions officielles. Je lui présentais le père Paul Duret de la Compagnie de Jésus.
« Duret ?»
parvint-il à répéter, la mâchoire comme en caoutchouc. C'était la première fois que je le voyais perdre son équanimité et je savourais l'occasion. « Nous vous expliquerons plus tard, » fis-je en serrant la main du prêtre. « Bonne chance sur le bosquet de Dieu, Duret, et ne soyez pas trop long. »«
Pas plus d'une heure, » promit le jésuite. « Il y a juste un morceau du puzzle que j'aimerais trouver avant de parler à la présidente. Je compte sur vous pour lui expliquer l'horreur des labyrinthes. Elle entendra mon témoignage un peu plus tard. »
Il est possible qu'elle soit trop occupée pour me recevoir avant votre arrivée de toute manière. Mais je ferai de mon mieux pour jouer les Saint-Jean-Baptiste en votre honneur.
« Prenez garde de ne pas perdre la tête, mon jeune ami, » me dit Duret en souriant.
Il tapa un code sur l'archaïque panneau d'Istrance et disparut de l'autre côté du cadre. Je me tournai pour faire mes adieux à Monseigneur Edouard.
« Nous allons tout arranger avant l'arrivée des extros, » lui dis-je.
« Que Dieu vous accompagne !»
murmura le vieux prélat en levant la main pour me bénir.
« Je sens qu'une sombre époque est devant nous tous, mais que vous aurez plus que votre part du fardeau à porter. »
Je secouai la tête. « Je ne suis qu'un observateur, Monseigneur. Je me contente de regarder, d'attendre et de rêver. Ce n'est pas un très grand fardeau. »«
Vous attendrez et vous rêverez plus tard, » me lança Hunt. « Sa suffisance vous veut sans délai apporter de la main, et j'ai une réunion qui m'attend. »
Je lui jetai un regard placide. « Comment m'avez-vous retrouvé ?» lui demandai-je. Je connaissais déjà la réponse. C'est le technocentre qui fait fonctionner les terminaux d'Istrance, et le technocentre travaille la main dans la main avec le gouvernement de l'hégémonie.
« La carte prioritaire qu'elle vous a donnée permet aussi de suivre vos déplacements, »
m'expliqua Hunt avec un mouvement d'impatience.
« Mais il est nécessaire que nous y allions tout de suite. C'est là-bas que tout se joue. »
« Très bien. » Je saluai le prélat et l'autre dignitaire, fis signe à Hunt de me suivre et entrai sur le panneau le code à trois chiffres de Tau Ceti Central, suivi des deux chiffres du continent, de trois autres représentant la maison du gouvernement et des deux derniers indiquant le Terminex privé. Le bourdonnement du Terminex devint plus aigu et sa surface se mit à miroiter comme pour m'inviter à passer. Je franchis le cadre et m'écartai aussitôt pour laisser le passage à Hunt. Nous ne sommes pas dans le Terminex central de la maison du gouvernement. Pour autant que je puisse l'affirmer, nous ne sommes même pas dans la maison du gouvernement. Il me faut une seconde de plus pour que mes sens, ayant évalué la quantité de lumière, la couleur du ciel, la gravité, la distance par rapport à l'horizon, les odeurs et l'impression générale, en concluent que nous ne sommes même pas sur Tau Ceti central. J'aurais pu sauter immédiatement en arrière, mais la porte du pape est étroite et Hunt est en train d'arriver. Une jambe, un bras, les épaules, la poitrine, la tête, puis la deuxième jambe. Je lui saisis le poignet, je le tire brutalement sur le côté en disant
« Il y a quelque chose d'anormal !»
J'essaie de repasser de l'autre côté, mais c'est trop tard. L'ouverture s'encadre de ce côté miroite, se rétrécit en un cercle de la taille de mon poing, puis disparaît.
« Où sommes-nous, bordel ?»
me demande Hunt. Je regarde autour de moi en songeant « Bonne question !» Nous sommes à la campagne, au sommet d'une colline. Au pied de cette colline, une route serpente à travers des vignes, longe une autre colline au long versant boisé et se perd au détour d'une autre butte située à 3 ou 4 kilomètres de distance. il fait agréablement chaud et des insectes bourdonnent autour de nous. Cependant, rien de plus gros qu'un oiseau ne bouge dans le paysage. Il y a des falaises à notre droite qui laissent voir un coin de mer bleue. Des cirrus flocconnent très haut dans le ciel. Le soleil vient de dépasser le zénith. Je ne vois pas de maison, pas de traces de technologie plus complexe que la culture des vignes et la route de pierre et de boue au-dessous de nous. Chose plus importante, le murmure continuel de l'infosphère n'existe pas ici. C'est un peu déroutant, et même terrifiant. Comme la disparition soudaine d'un bruit auquel on a été habitué depuis sa plus tendre enfance. Hunt fait un pas en avant en trébuchant, se frappe les oreilles comme s'il voulait se persuader qu'il entend encore, frappe violemment son persoc.
« Merde !»
s'exclame-t-il.
« Merde de merde ! Mon implant ne fonctionne plus ! Mon persoc ne marche pas !»«
Ce n'est pas ça, » lui dis-je. « Je pense plutôt que nous sommes en dehors de l'infosphère. » Mais tout en prononçant ces mots, je perçois un bourdonnement plus grave, plus discret, plus ample et beaucoup moins accessible que l'infosphère. Serait-ce la mégasphère ? La musique des sphères, me dis-je en souriant.
« Qu'est-ce que vous avez à rire comme un con, Severne ? C'est vous qui l'avez fait exprès ?
Pas du tout, j'ai tapé les bons codes. » L'absence totale de panique dans ma voix est en soi une forme de panique.
« Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, alors ? C'est cette foutue porte du pape ? Quelqu'un nous a joué un tour ? Il y a eu une panne ?»«
Je ne pense pas. La porte fonctionne très bien, Hunt. Elle nous a simplement conduit là où le technocentre voulait que nous nous trouvions. »«
Le technocentre ?»
Le peu de couleur qu'il y avait dans sa physionomie de Basset disparaît à vue d'œil, tandis que le collaborateur de la présidente prend conscience de l'identité de ceux qui contrôlent le réseau d'Istrance. L'ensemble du réseau d'Istrance.
« Bon Dieu !» murmure-t-il. « Sacré bon Dieu !»
Il vacille au bord de la route et s'assoit dans l'herbe. Son complet de cadre supérieur en suédine et ses chaussures noires semblent déplacées ici.
« Où sommes-nous ? »
me demande-t-il de nouveau. Je prends une grande inspiration. Il y a dans l'air une odeur de terre fraîchement retournée, d'herbes coupées et de poussière du chemin. Le vent nous apporte les effluves iodés de l'océan. « Si vous voulez mon avis, Hunt, je pense que nous sommes sur la terre. »
« La terre ? » répète le petit homme en regardant droit devant lui. « La terre, vous voulez dire peut-être la nouvelle terre, Terra, la terre 2 ?
Non, Hunt. La planète Terre. L'ancienne Terre. Ou sa reproduction. »«
Sa reproduction ?»
Je m'avance vers lui pour m'asseoir à ses côtés. Je cueille un brin d'herbe que je dépouille de sa gaine pour le porter à mes lèvres. Il a un goût vinaigré familier. Vous vous souvenez peut-être du rapport que j'ai remis à Gladstone sur les récits des pèlerins d'Hyperion, en particulier celui de Brown Lamia. Elle s'est trouvée un jour distransportée en compagnie de mon homologue Sibrid, la première personnalité kitsienne récupérée, sur ce qu'ils ont décrit comme une reproduction exacte de l'ancienne Terre, qui se trouvait, si je ne me trompe, dans la main d'Hercule. Hunt lève la tête comme s'il pouvait vérifier mes dires en jetant un simple coup d'œil aux étoiles. Le bleu du ciel est en train de virer légèrement au gris et les cirrus d'altitude recouvrent la totalité de la voûte céleste.
« La main d'Hercule ?»
répète Hunt dans un souffle. Ce que Brown n'a pas su nous dire, c'est pour quelle raison le centre a jugé bon de construire une réplique de la Terre et à quel usage il la destine. Le premier cybride n'avait pas l'air de le savoir non plus. En tout cas, il n'a rien révélé.
Rien révélé,
répète Hunt en hochant la tête.
Bon, si vous m'expliquez comment on fait pour sortir de ce fichu endroit. Gladstone a besoin de moi, elle ne peut pas... Il y a des dizaines de décisions vitales à prendre dans les heures qui viennent.
Il bondit sur ses pieds et court se mettre au centre de la route, débordant d'énergie, pendant que je mâchonne mon brin d'herbe. « À mon avis, il est impossible de sortir d'ici. » Il fonce sur moi comme s'il voulait m'étriper.
« Vous êtes fou ? Comment ça, impossible ? C'est complètement dingue ! Pourquoi le centre ferait-il une telle chose ?»
Il marque un temps d'arrêt, puis reprend.
Ils veulent vous empêcher de lui parler. Vous savez quelque chose que le centre ne veut pas prendre le risque de l'avoir à prendre.
C'est possible.
Il lève la tête vers le ciel pour crier.
Gardez-le si vous voulez, mais laissez-moi partir!
Personne ne lui répond. Au loin, au-dessus des vignes, un gros oiseau noir prend son vol. Je pense qu'il s'agit d'un corbeau. Je me souviens du nom de cette espèce en extinction comme si cela venait d'un rêve. Au bout d'un moment, Hunt renonce à s'adresser au ciel et se met à faire les 100 pas sur la route empierrée.
« Venez, murmure-t-il, il y a peut-être un terminex au bout de cette route. »«
C'est possible, lui dis-je en cassant le brin d'herbe pour en conserver uniquement la partie supérieure, sèche et sucrée. « Mais de quel côté voulez-vous aller ?» Il se tourne, à gauche, puis à droite, vers les collines où la route disparaît.
« En franchissant la porte, nous faisions face à cela, »
me dit-il en désignant un bosquet où la route descend se perdre. « Jusqu'où irons-nous ? » ?»«
Quelle importance, sacré bon Dieu ! Il faut bien que nous allions quelque part !»
Je résiste à l'envie de sourire. « Très bien. » Je me lève, j'époussette mon pantalon. Les rayons du soleil me chauffent le visage et le front. Après la pénombre froide et chargée d'encens de la basilique, cela me fait un choc. L'air ici semble brûlant en comparaison. Mes vêtements sont déjà mouillés de transpiration. Hunt descend le versant de la colline d'un pas énergique, les poings crispés. Sa physionomie morose, pour une fois, est agrémentée d'une expression d'intense résolution. Je le suis de loin, sans me presser, le brin d'herbe à la bouche, les yeux à demi-clos de lassitude. Le colonel Fedman Cassad poussa un cri perçant et attaqua le Gritch. Le paysage surréaliste et hors du temps, version minimaliste, faite par un décorateur de théâtre de la vallée des tombeaux du temps, qui ressemblait à un décor moulé dans du plastique et enrobé d'un cocon d'atmosphère visqueuse, donnait l'impression de vibrer sous la violence de l'assaut. L'espace d'un instant, il avait vu l'image multiple, comme reflétée par une série de miroirs, d'un grand nombre de Gritch répartis dans la vallée, occupant la plaine nue. Mais son cri avait eu pour effet de les rassembler en un seul monstre qui s'avançait maintenant, les quatre bras écartés comme pour l'accueillir contre sa carapace hérissée de lames et de piquants. Cassad ignorait jusqu'à quel point la combinaison à énergie qu'il portait, cadeau de Moneta, le protégerait au combat. Elle lui avait été utile des années auparavant, lorsque Moneta et lui avaient attaqué les soldats extro des deux vaisseaux de descente. Mais ils avaient eu le temps pour allier en cette occasion. Le Gritch avait figé et défigé les tranches de moments comme un spectateur blasé qui joue avec la télécommande d'une fausse holo. Aujourd'hui, il se trouvait totalement hors du temps et le Gritch était l'ennemi au lieu de jouer le rôle d'un effrayant protecteur. Cassad lança de nouveau son cri, baissa la tête et attaqua, oubliant Moneta qui le regardait, oubliant l'impossible arbre aux épines qui se dressait jusqu'au nuage avec ses occupants empalés sur ses terribles branches, oubliant tout de lui-même à l'exception du fait qu'il était une machine de guerre, un instrument de vengeance. Le Gritch ne disparut pas de la manière habituelle. Il ne cessa pas d'être en un endroit pour se retrouver dans un autre. Il s'accroupit légèrement en ouvrant plus grand les bras. Les lames de ses doigts captèrent la lumière du ciel tourmenté. Ses dents de métal jetèrent des éclats tandis qu'il faisait l'équivalent d'un sourire. Cassad sentit la fureur monter en lui. Il n'était pas fou au point d'aller se jeter dans les bras de ce monstre de mort. Il fit un bond de côté au dernier moment, exécutant un roulé-boulet sur une épaule, fauchant au passage l'un des membres inférieurs du monstre, au-dessous du bouquet d'épines de son genou, au-dessus de la structure équivalente de sa cheville.
Si je pouvais le faire tomber.
C'était comme s'il avait donné un coup de pied dans un tuyau coulé dans un bloc de béton de 500 mètres de long. La jambe de Cassad aurait été brisée net si la combinaison ne l'avait pas protégée en agissant comme une armure et un amortisseur. Le Gritch fit un mouvement d'une rapidité impressionnante mais non impossible. Ses deux bras droits fendirent l'air en un mouvement tournant, d'abord vers le haut, puis vers le bas, exécuté comme un tourbillon. Les lames de 10 doigts gravèrent dans le sable et la pierre des sillons d'une précision chirurgicale. Les épines des bras faisaient voler des étincelles, tandis que les mains continuaient de monter, lacérant l'air avec un sifflement audible. Mais Kassad était hors de portée. Continuant son roulé-boulé, il se rétablit sur ses pieds, accroupi, les bras tendus devant lui, paume à plat, doigts rigides.
Un combat singulier, le plus honorable des sacrements du nouveau Bushido.
Le Gritch feinta de nouveau de ses bras droits et fit un moulinet de haut en bas avec son bras gauche inférieur. Le coup avait assez de violence pour fracasser les côtes de Kassad et faire voler son cœur comme un ballon de rugby. Kassad bloqua la feinte des bras droits et de son avant-bras gauche. Il sentit la peau de l'armure lui entrer dans les chairs et lui écraser l'os sous la pression du coup de bélier. En même temps, il intercepta la trajectoire meurtrière du bras gauche en happant au passage, de la main droite, le poignet du monstre juste au-dessus des piquants incurvés de son articulation. Chose incroyable, il parvint à ralentir et à détourner suffisamment le coup pour que les scalpels éraflent la surface de sa combinaison au lieu de pénétrer profondément dans ses chairs. Il fut presque soulevé du sol par l'impact. Seul le mouvement vers le bas de la première feinte du Gritch l'empêcha de voler en arrière. La transpiration coulait à flots sous la combinaison. Ses muscles étaient tendus à se déchirer durant les 20 interminables secondes que dura la séquence, juste avant que le Gritch fasse intervenir son 4e bras, qui faucha la jambe de Kassad. Il hurla tandis que le champ protecteur de la combinaison cédait et que la chair se fendait. Une lame au moins passa tout près de l'os. Il lança son autre pied sur le poignet du Gritch pour lui faire lâcher prise et roula de côté en poussant un hurlement de rage. Le Gritch frappa à 2 reprises. Le second coup siffla à quelques millimètres de l'oreille de Kassad. Puis le Gritch fit un bond en arrière, se ramassa et se déplaça légèrement sur sa droite. Kassad se releva sur son genou gauche, faillit tomber, puis se mit debout en chancelant, espérant vaguement trouver son équilibre. La douleur rugissait à ses oreilles et remplissait l'univers d'une lumière rouge. Grimaçant, trébuchant, sur le point de perdre conscience, il sentit cependant la combinaison se refermer sur la blessure, jouant le double rôle de pansement et de garrot. Sa jambe gauche était ensanglantée, mais le sang ne coulait plus, et la douleur était devenue presque tolérable. Comme si la combinaison était dotée des mêmes auto-injecteurs Medipack que son armure de combat de la force. Le Gritch fonça sur lui. Kassad lança son pied 1 fois, 2 fois, visant la surface lisse de la carapace de chrome, juste au-dessous du piquant de la poitrine. Il atteignit son but. C'était comme s'il avait donné un coup de pied contre la coque d'un vaisseau torche, mais le Gritch sembla vaciller et même reculer. Kassad fit un pas en avant, assura son assise et frappa 2 fois de suite à l'endroit où aurait dû se trouver le cœur de la créature. Son coup de poing aurait pu fracasser un mur de céramique durci. Ignorant la douleur à son poignet, il pivota sur lui-même et assena au monstre en plein museau, juste au-dessus des dents, un coup terrible du talon de la main. N'importe quel humain aurait entendu les os de son nez se briser et senti l'explosion de cartilage remonter jusqu'à son cerveau. Le Gritch voulut happer le poignet de Kassad, manqua son coup et lança ses 4 mains vers les épaules et la tête de son adversaire. Haletant, la sueur et le sang jaillissant à flot sous l'armure de vif argent, Kassad pivota de gauche à droite 1 fois, 2 fois, et accompagna le mouvement d'une manchette meurtrière sur la nuque courte de la créature. Le bruit de l'impact résonna dans la vallée figée comme le bruit d'une cognée lancée de plusieurs kilomètres de haut, vers le cœur d'un séquoia de métal. Le Gritch tomba en avant, puis roula sur le dos, comme un crustacé à la carapace d'acier. Il l'avait terrassé. Kassad fit un pas en avant, les genoux toujours fléchis, sur ses gardes, mais pas suffisamment. Le pied blindé du Gritch, ou encore une griffe ou un foutu piquant, faucha la cheville de Kassad et lui fit presque perdre son équilibre. Il sentit cruellement la douleur. Son tendon d'Achille avait été sectionné. Il essaya de rouler sur le côté, mais la créature s'était relevée et se jetait sur lui,
tous ses piquants et toutes ses lames convergeant vers ses yeux, son visage et sa cage thoracique. Grimaçant de douleur, replié sur lui-même dans un vain effort pour projeter le monstre loin de lui, Kassad parvint à bloquer quelques coups, sauva ses yeux et sentit plusieurs lames s'enfoncer dans ses avant-bras, son thorax et son abdomen. Le Gritch était au-dessus de lui, la gueule ouverte. Kassad apercevait les rangées de dents de métal qui garnissaient la caverne rouge qui servait de bouche au monstre. Tout était teinté de rouge à travers sa vision déjà mêlée de sang. Il réussit à insérer le talon de sa main droite sous la mâchoire du monstre et essaya de faire pression sur elle. C'était comme s'il essayait de soulever une montagne de lames d'acier sans avoir un bon point d'appui. Pendant ce temps, les bistouris du Gritch continuaient de lui labourer les chairs. Le monstre ouvrit de nouveau la gueule et pencha la tête jusqu'à ce que le champ de vision ne soit rempli, d'une oreille à l'autre, que de rangées de dents. La créature n'avait pas d'haleine, mais la chaleur de sa fournaise intérieure avait une odeur de soufre et de limaille d'acier portée à haute température. Kassad ne possédait plus aucune défense. Lorsque le monstre refermerait sa gueule, il lui entamerait la chair du visage jusqu'à l'os. Soudain, Moneta apparut, hurlante dans ce lieu où le son ne portait pas, enfonçant dans les yeux à facettes du monstre ses doigts recourbés comme des griffes, les pieds fermement plantés dans le dos du Gritch, au-dessous de l'épine, le tirant en arrière de toutes ses forces. Les bras du monstre frappèrent en arrière, articulés comme ceux d'un crabe de cauchemar. Les lames fauchèrent Moneta qui lâcha prise, mais pas avant que Kassad pût se libérer, ignorant la douleur, pour se relever et entraîner la fille un peu plus loin à travers les sables et la roche figée. Un instant, leur combinaison fusionnèrent, comme lorsqu'ils avaient fait l'amour. Il sentit sa chair contre la sienne, son sang et sa sueur contre les siens. Les battements de leurs deux cœurs étaient confondus.
« Tue-le !»
souffla Moneta, dont la douleur était audible même en mode subvocal.
« Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. »
Le Gritch s'était relevé. 3 mètres d'acier chromé et de lames couvertes du sang et de la douleur des hommes. Il ne semblait souffrir d'aucun dommage majeur. Le sang de quelqu'un d'autre coulait en étroits ruisseaux le long de ses poignets et de sa carapace. Son rictus sans âme semblait plus large que précédemment. Kassad sépara son armure de celle de Moneta. Il la posa doucement sur un rocher, bien qu'il se sût plus touché qu'elle. Mais ce n'était pas son combat à elle. Pas encore. Il s'interposa entre celle qu'il aimait et le Gritch. Il hésita. Un murmure faible mais d'intensité croissante parvenait à ses oreilles, comme la marée qui monte à l'assaut d'un rivage invisible. Il leva les yeux, sans toutefois perdre de vue le Gritch qui avançait lentement, et se rendit compte que la rumeur provenait de l'arbre aux épines qui se trouvait au loin derrière le monstre. Les malheureux qui y étaient empalés et qui formaient sur les branches de petites taches colorées ne gémissaient plus sur le même registre de douleur que précédemment. Ils étaient en train de lui faire une ovation à leur manière. Il reporta son attention sur le Gritch, qui opérait un mouvement tournant. Il sentait la douleur et la faiblesse s'installer dans son talon cruellement entaillé. Son pied droit était devenu inutile, incapable de porter son poids. Il se servit du pied gauche et de la main appuyée sur le rocher pour pivoter en même temps que le monstre, de manière à protéger Moneta. La rumeur lointaine s'arrêta, comme une respiration retenue. Le Gritch cessa d'être là où il était pour se trouver sur Kassad, les bras refermant déjà leur étreinte mortelle, les lames et les piquants s'enfonçant déjà dans ses chairs. Les yeux du monstre semblaient émettre leur propre lumière. Ses mâchoires s'ouvrirent de nouveau. Kassad lança un cri de rage et de défi et frappa de toutes ses forces. Le père Paul Duré franchit sans incident la porte du pape et se retrouva sur le bosquet de Dieu. Quittant la pénombre chargée d'encens des appartements pontificaux, il eut du mal à s'adapter à la riche lumière diffusée par un ciel citron au-dessus d'un paysage de verdure éclatante. Les Templiers l'attendaient tandis qu'il émergeait du terminal d'Istrance privé.
il voyait le bord de la plateforme en bois de Vorte à 5 mètres de lui sur la droite. Au-delà, il n'y avait plus rien. Ou plutôt, il y avait toute la voûte feuillue du bosquet de Dieu qui s'étendait jusqu'à l'horizon de la planète. Le sommet des arbres miroitait comme la surface d'un océan. Duré savait qu'il se trouvait au sommet de l'arbre-monde, le plus haut et le plus sacré de tous les arbres que les Templiers vénéraient. Ceux qui étaient venus l'accueillir comptaient parmi les plus importants dans la hiérarchie complexe de la fraternité du Muir. Ils ne lui servirent cependant pour le moment que de guide. Ils le conduisirent à un ascenseur entouré de lianes et de plantes grimpantes, qui s'éleva vers des niveaux où peu de non-templiers avaient eu accès dans le passé. Puis ils suivirent une passerelle qui débouchait sur un escalier bordé d'une rampe sculptée dans un magnifique bois de Muir. Ils grimpèrent en spirale autour d'un tronc dont le diamètre allait en diminuant de 200 mètres à la base jusqu'à moins de 8 mètres dans les sommets où ils se trouvaient. La plateforme en bois de Vorte était exquisément ouvragée. Les rampes formaient de délicates arabesques de lianes sculptées à la main. Les piliers et balustrades s'ornaient de têtes de gnomes, lutins et autres esprits des bois. La table et les fauteuils dont le père Duré s'approchait maintenant étaient sculptés d'une seule pièce avec la plateforme circulaire. Deux hommes l'attendaient. Le premier était celui à qui Duré voulait parler, la voix authentique de l'arbre-monde, le grand prêtre du Muir, le porte-parole de la fraternité des Templiers, Sec Hardin. Le second constituait une surprise. Duré remarqua d'abord la robe rouge, couleur de sang artériel, bordée d'hermine noire. Le Lusien qui la portait était gras, le visage tout en bajoux, le nez énorme et busqué, les petits yeux ronds perdus dans le milieu de tous ses replis de chair. Ses deux mains adipeuses étaient ornées d'anneaux rouges et noirs, en alternance, à chaque doigt. Duré savait qu'il avait devant lui l'évêque de l'église de l'expiation finale, le grand prêtre du culte Grichtek. Le Templier se leva. Du haut de ses 2 mètres, il déclara en tendant la main au père Duré : « Nous sommes heureux que vous ayez pu vous joindre à nous. » En lui serrant la main, Duré eut l'impression de toucher une vieille racine. Ses longs doigts effilés avaient une couleur jaunâtre. La voix authentique de l'arbre-monde portait la même robe à capuche que Het Mastin, et sa couleur verte à liseré brun formait un fort contraste avec la tenue flamboyante de l'évêque. « Merci de me recevoir sans rendez-vous, H. Hardin, » murmura Duré. La voix authentique était le chef spirituel de plusieurs millions d'adeptes du Muir, mais Duré savait que les Templiers détestaient l'usage de titres honorifiques lorsque l'on s'adressait à eux. Il se tourna vers l'évêque pour ajouter « Votre éminence, j'ignorais que j'allais avoir l'honneur de me trouver en votre présence. » L'évêque du culte Grichtek eut un hochement de tête presque imperceptible.
« Je suis ici en visite. H. Hardin a émis l'idée que cette rencontre pourrait présenter un certain intérêt pour moi. Je suis heureux de faire votre connaissance, père Duré. Nous avons beaucoup entendu parler de vous au cours de ces dernières années. »
Le Templier indiqua un siège de l'autre côté de la table en bois de Muir. Duré s'assit, joignant les mains sur la surface polie du bois dont il fit mine d'admirer le grain pendant qu'il réfléchissait à toute vitesse. La moitié des forces de sécurité du Retz était à la recherche de l'évêque. Sa présence ici annonçait des complications qui dépassaient de loin celles que le jésuite s'attendait à affronter.
« Intéressant, n'est-ce pas ?»
demanda l'évêque.
Trois des religions les plus profondément ancrées dans l'histoire de l'humanité sont représentées autour de cette table.
Profondément ancrées, sans doute, répliqua Duré. Mais elles ne représentent guère les croyances de la majorité des humains. Sur près de 150 milliards d'âmes, l'Église catholique en représente moins d'un million. Le culte du... l'Église de l'expiation finale, entre 5 et 10 millions, je pense. « Et combien de Templiers, H. Hardin ?»«
23 millions !» répondit la voix de l'arbre-monde d'un ton doux.
Beaucoup d'autres partagent nos vues écologiques et voudraient sans doute rejoindre nos rangs, mais notre fraternité n'est pas ouverte aux masses. »
L'évêque frotta l'un de ses multiples mentons. Il avait la peau laiteuse et ses petits yeux clignaient comme s'il n'était pas habitué à la lumière du jour.
« Les gnostiques zen prétendent compter 40 millions d'adeptes, »
grogna-t-il.
« Mais de quelle sorte de religion s'agit-il, je vous le demande ?» Ils n'ont ni prêtre, ni église, ni livre saint, ni concept de péché. »
Duret sourit. C'est sans doute pour cela qu'ils sont en prise avec l'époque, et que cela dure depuis quelques générations.
Bah !
L'évêque abattit sa main molle sur la table. Duret fit la grimace en entendant le choc des bagues sur le bois précieux.
Comment se fait-il que vous sachiez qui je suis ? Demanda-t-il.
Le Templier releva la tête juste assez pour que le prêtre pût voir une tache de soleil sur son nez, ses joues et la ligne effilée du menton dans l'ombre du capuchon. Mais il demeura muet.
« C'est nous qui vous avons choisi, »
grommela l'évêque.
« Vous et les autres pèlerins. »«
Vous voulez dire l'église Grichtek ?» demanda Duret. L'évêque fronça les sourcils devant cette appellation, mais hocha la tête sans rien dire.
« Pourquoi toutes ces émeutes ?» demanda Duret. « Pourquoi créer ces troubles au moment où l'hégémonie est menacée par ses ennemis ?»
Lorsque l'évêque frotta de nouveau les replis adipeux de son menton, les gemmes rouges et noires de ses bagues jetèrent des feux dans la lumière de fin d'après-midi. Derrière lui, un million de feuilles frémissaient sous la brise qui apportait les senteurs de la végétation mouillée par la pluie.
« Les derniers jours sont arrivés, prêtre. Les prophéties faites par l'Avatar il y a plusieurs siècles sont en train de se réaliser sous nos yeux. Ce que vous appelez des émeutes sont les premières affres de mort d'une société qui a mérité de périr. Les jours de l'expiation sont venus et le Seigneur de la douleur marchera bientôt parmi nous. »
« Le Seigneur de la douleur, » répéta Duret. Le Gritch.
Le Templier fit un geste conciliant de la main gauche, comme s'il essayait de minimiser la portée des mots employés par l'évêque.
« Perdurez, » dit-il. « Nous sommes au courant de votre résurrection miraculeuse. »«
Miraculeuse ? Certainement pas. Elle est due aux caprices d'un parasite appelé cruciforme. »
De nouveau, le Templier agita ses longs doigts jaunâtres.
« Quel que soit le nom que vous donnez à la chose, perdurez, la fraternité se réjouit de vous revoir parmi nous. Veuillez maintenant, je vous prie, nous exposer les motifs de votre visite. »
Duret frotta des mains le bois lisse de son fauteuil, puis jeta un coup d'œil à la masse rouge et noire de l'évêque affalée en face de lui.
« Il y a longtemps que vos deux organisations travaillent la main dans la main, n'est-ce pas ? La Fraternité des Templiers et l'Église Grichtek. »«
L'Église de l'expiation finale !»
corrigea l'évêque de sa voix grave et tremblotante.
« Et pour quelle raison ?»
continua Duret après avoir hoché distraitement la tête.
« Qu'est-ce qui vous unit dans tout cela ?»
La voix authentique de l'arbre-monde se pencha en avant. Sous la capuche, son visage était entièrement plongé dans l'ombre.
« Il faut que vous compreniez, Père Duret, que les prophéties de l'Église de l'expiation finale recoupent la mission que nous a confiée le Muir. Elles sont les seules à contenir la clé du châtiment qui attend l'humanité pour avoir détruit son monde natal. » « L'humanité n'est pas la seule responsable de la destruction de l'ancienne Terre, » répliqua Duret. « Ce sont les ordinateurs du groupe de Kiev qui ont eu une défaillance lors de la tentative de création d'un mini-trou noir. »
Le Templier secoua la tête.
« Mettez plutôt cela sur le compte de l'arrogance humaine, » dit-il d'une voix douce.
cette même arrogance qui a poussé notre race à détruire toutes les espèces qui auraient eu la moindre chance d'atteindre un jour un stade d'intelligence dans leur évolution. Les aluites sénéchiens d'Hébron, les éplins de Wirl, les centaures des marais de Garden, les grands singes de l'ancienne terre.
« Je sais, » murmura Duré, « beaucoup d'erreurs ont été commises.
Mais cela doit-il nécessairement condamner l'humanité à périr ?»«
La sentence a été prononcée par une puissance qui nous est de très loin supérieure, »
fit l'évêque de sa voix résonnante.
« Les prophéties sont précises et explicites. Le jour de l'expiation finale va arriver. Tous ceux qui ont hérité des péchés d'Adam et de Kiev doivent subir les conséquences de l'assassinat de leur propre planète et de l'extermination des autres espèces. Le Seigneur de la douleur a été libéré des entraves du temps pour pouvoir exécuter la sentence. Il est impossible d'échapper à son courroux, impossible d'échapper à l'expiation. C'est une puissance plus forte que nous qui l'a décrété. »
C'est vrai, renchérit Sec-Hardin. Les prophéties nous ont été transmises par les voies authentiques à travers les générations. L'humanité est condamnée. Mais sur les ruines de ce que l'on appelle aujourd'hui l'hégémonie, fleuriront de nouveaux empires libres de tout péché et de toute souillure. Rompu à la dialectique jésuite, familier de la théologie évolutionnaire de Teilhard de Chardin, le père Duré fut néanmoins tenté de dire « Mais qu'est-ce que cela peut faire que les fleurs poussent si personne n'est là pour les voir et pour les sentir ?» Au lieu de cela, les mots qui sortirent de ses lèvres furent « Avez-vous envisagé la possibilité que ces prophéties, au lieu de constituer une révélation divine, ne soit qu'une tentative de manipulation par une puissance séculière. » Le Templier eut un mouvement de retrait dans son fauteuil, comme s'il venait de recevoir un violent soufflet. L'évêque, au contraire, se pencha en avant, serrant ses deux poings lusiens qui auraient pu broyer le crâne de Duré en lui assénant un seul coup.
« Hérésie ! »
hurla-t-il.
« Celui qui ose nier les révélations mérite la mort.
Quelle puissance serait capable de faire une telle chose ? » demanda d'une voix troublée la voix authentique de l'arbre-monde. « Quelle autre puissance que l'absolu du muir pourrait entrer dans nos cœurs et dans nos esprits ?» Duré leva une main vers le ciel. « Tous les mondes du Retz sont réunis depuis des générations par l'intermédiaire de l'infosphère du technocentre. La presque totalité des humains qui exercent un certain degré d'influence ont sur eux des implants qui leur facilitent les communications. N'est-ce pas votre cas, Ashardine ? » Le Templier ne répondit pas, mais Duré perçut le léger frémissement de ses doigts comme s'il allait se frapper la poitrine et le haut du bras aux endroits où les micro-implants se trouvaient depuis des dizaines d'années. Le technocentre a créé une intelligence transcendantale, continua Duré. Elle consomme des quantités incroyables d'énergie et elle est capable de se déplacer en avant et en arrière dans le temps. Elle n'est pas concernée par les motivations humaines. L'un des objectifs d'une fraction non négligeable des personnalités du centre était l'élimination pure et simple de l'humanité. En fait, il y a de fortes chances pour que la grande erreur du groupe de Kiev ait été délibérément provoquée par des IA participant au programme. Ce que vous appelez prophétie n'est peut-être que la voix de ce Deus ex machina qui nous est parvenu par l'intermédiaire de l'infosphère. Le Gritch n'est peut-être pas là pour faire expier ses péchés à l'humanité,
mais pour massacrer des hommes, des femmes et des enfants aux seules fins de satisfaire les visées personnelles d'une machine. Le visage adipeux de l'évêque était devenu aussi écarlate que sa robe. Ses poings s'abattirent sur la table, et il chercha laborieusement à se mettre debout. Mais le templier posa la main sur son bras en le forçant presque à se rasseoir.
« Qui vous a inspiré ces idées ?» demanda Sec Hardin.
« Certains membres du pèlerinage qui ont accès au centre, et d'autres sources également. » L'évêque secoua le poing en direction du prêtre.
« Vous-même, vous avez été touché par l'avatar, et pas une seule fois, mais deux. Il vous a été conféré une sorte d'immortalité pour que vous puissiez voir le sort réservé aux élus, ceux qui se préparent à l'expiation avant l'avènement des derniers jours.
Le Gritch ne m'a confié que des souffrances, répliqua Duré. Des souffrances et des tortures qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Il est vrai que j'ai rencontré deux fois ce monstre. Et je sais au plus profond de mon cœur qu'il n'est ni diabolique ni divin, mais qu'il s'agit d'une quelconque machine organique venue d'un terrible futur.
« Bah !»
fit l'évêque avec un geste de dérision. Croisant les bras, il laissa porter son regard au loin, dans le vague, par-dessus la balustrade de la plateforme. Le templier semblait avoir reçu un choc. Au bout d'un moment, il releva la tête pour murmurer.
« Vous aviez une question précise à me poser ?»
Duré prit une longue inspiration.
« En effet. Et aussi, malheureusement, une triste nouvelle à vous apporter. Et Mastin, la voix de l'arbre authentique, est mort.
Nous le savions. » Duré fut surpris. Il ne comprenait pas comment ils avaient obtenu l'information. Mais cela n'avait plus d'importance maintenant.
« Ce que je voulais vous demander, dit-il, c'est pourquoi il participait au pèlerinage. Quelle était la mission qu'il n'a pas pu accomplir avant de mourir ? Chacun de nous a raconté son histoire. Et Mastin est le seul à n'avoir pas pu le faire. J'ai le sentiment, je ne sais pas pourquoi, que la clé de bien des mystères réside dans ce qui lui est arrivé. »
L'évêque se tourna vers lui pour lui dire d'un ton méprisant
« Nous n'avons pas à vous dire quoi que ce soit, petit prêtre d'une religion moribonde !»
Sec Hardin garda le silence un long moment avant de répondre.
Ash Mastin était volontaire pour porter la parole du Muir sur Hyperion, la prophétie implantée depuis des siècles au cœur de nos croyances, annonce qu'à l'avènement des temps troublés, une voix de l'arbre authentique devra conduire son vaisseau arbre sur le monde sacré pour y assister à sa destruction, puis à sa renaissance en tant que véhicule du message de l'expiation et du Muir. Ainsi, Et Mastin savait d'avance que le vaisseau arbre Yggdrasil allait être détruit en orbite.
Oui, les prédictions l'affirmaient.
Et il comptait, avec son air gâchant de force, trouver sur place un nouveau vaisseau.
« Oui, » fit le Templier d'une voix presque inaudible.
« Un arbre de l'expiation que l'avatar devait lui fournir. »
Duré se laissa aller en arrière contre le dossier de son siège, hochant lentement la tête.
« Un arbre de l'expiation, l'arbre aux épines. » Et Mastin a été psychiquement atteint par la destruction de l'Yggdrasil. Il a été conduit dans la vallée des tombeaux du temps, où on lui a montré l'arbre aux épines du Gritch. Mais il n'était pas disposé, peut-être parce qu'il avait perdu une partie de ses moyens,
à faire ce qui lui était demandé. L'arbre aux épines est habité par la mort, la souffrance et la torture. Et Mastin ne pouvait pas en accepter le commandement. Il a peut-être refusé. Quoi qu'il en soit, il a fui et il a trouvé la mort. Je m'en doutais un peu, mais je n'avais pas idée de ce que le Gritch avait pu lui proposer.
« Que racontez-vous ? »
tonna l'évêque.
« L'arbre de l'expiation est décrit dans les prophéties. Il accompagnera l'avatar pour sa moisson finale. Et Mastin était prêt à accepter cette mission. Il aurait été honoré de commander le vaisseau et de le piloter à travers l'espace et le temps. »
Paul Duret secoua la tête sans rien dire. « Avons-nous répondu à votre question ?» demanda Sec Hardin. « Oui. »«
Dans ce cas, répondez maintenant à la nôtre, »
fit l'évêque.
« Qu'est devenue la mer ?»«
La mer ? Quelle mer ?»«
Celle de notre salut, notre dame de l'expiation. » Celle que vous appelez Braun Lamia.
Duret essaya de se remémorer le contenu des feuillets que lui avait remis le consul et qui résumaient les récits faits par les pèlerins sur la route d'Hyperion. Braun était enceinte de l'enfant du premier cybride de Kitz. Le temple Grichtek sur Lusus l'avait sauvée de la foule en furie et lui avait fait rejoindre le pèlerinage. Elle mentionnait quelque part dans son récit que les fidèles de l'église Grichtek lui avaient manifesté un grand respect. Duret essaya d'incorporer tous ces détails à la mosaïque confuse de tout ce qu'il avait déjà appris, mais il n'y parvint pas. Il était beaucoup trop fatigué, et son cerveau, se disait-il, était diminué par sa prétendue résurrection. Il n'était plus, et il ne serait plus jamais, l'intellectuel que Paul Duret avait jadis été.
Braun était dans le coma, expliqua-t-il. Le Gritch, de toute évidence, s'était emparé de son esprit et l'avait relié à une sorte de câble. D'après les appareils, son état équivalait à la mort cérébrale. Mais le fœtus était vivant et en bonne santé.
Et la personnalité qu'elle portait en elle ?
Demanda l'évêque d'une voix tendue. Duret se souvint de ce que lui avait dit Séverne à propos de la mort de cette personnalité dans la mégasphère. De toute évidence, les deux hommes qui se trouvaient devant lui n'étaient pas au courant de l'existence d'une seconde personnalité kitsienne, celle de Séverne, qui devait être en ce moment même en train de mettre Gladstone en garde contre les propositions du technocentre. Il secoua la tête. Il se sentait incroyablement là.
J'ignore tout de la personnalité qu'elle portait dans sa boucle de Schrön, dit-il. Le câble, cette chose à laquelle le Gritch l'avait attaché, semblait pénétrer dans son orifice crânien exactement comme une dérivation corticale.
L'évêque hocha la tête, visiblement satisfait.
Les prophéties s'accomplissent l'une après l'autre, dit-il. Vous avez rempli votre office de messager, Duret. À présent, je dois vous quitter.
Le gros homme se leva, inclina la tête en direction de la voix authentique de l'arbre-monde, puis s'éloigna sur la plateforme en direction de l'escalier qui conduisait à l'ascenseur et au terminal. Duret demeura silencieux plusieurs minutes devant le templier. Le bruit du vent dans les frondaisons et le mouvement de balancement de la plateforme étaient merveilleusement reposants. Le jésuite se serait bien endormi ici même. Au-dessus de lui, la voûte céleste prenait une délicate couleur de safran, tandis que le crépuscule descendait sur le bosquet de Dieu. « Ce que vous avez dit sur un Deus ex machina qui nous tromperait depuis des générations par ses fausses prophéties, est une terrible hérésie, » lui dit enfin le Templier.
« Je sais, mais les hérésies, dans la longue histoire de mon Église, ont fini plus d'une fois par être acceptées comme de tristes vérités, Sec Hardin. Si vous étiez un templier, j'aurais pu vous faire mettre à mort, lui dit le personnage encapuchonné sans élever la voix. Duré soupira. À son âge, dans sa situation et dans l'état d'épuisement où il se trouvait, l'idée de la mort ne pouvait soulever aucune peur dans son cœur. Il se leva et s'inclina légèrement. « Je dois prendre congé maintenant, » dit-il. « Pardonnez-moi si je vous ai offensé par mes propos. Nous vivons des temps très troublés et encore plus troublants. » « Les meilleurs manquent de foi, » récita-t-il en son fort intérieur, « tandis que les pires sont animés d'une passion intense. » Il se détourna pour marcher jusqu'au bord de la plateforme. Puis il s'arrêta net. L'escalier avait disparu. 30 mètres à la verticale et 15 mètres de vide à l'horizontale le séparaient de la plateforme de l'ascenseur. L'arbre monde plongeait sur plus de 1000 mètres dans l'obscurité feuillue qui les séparait de la terre ferme. La voix authentique de l'arbre monde et lui étaient isolés ici, sur la plus haute plateforme. Duré s'avança jusqu'à la balustrade la plus proche, leva son front soudain couvert de sueur dans la brise du soir, et aperçut les premières étoiles qui pointaient dans le ciel outre-mer. Que se passe-t-il, Sekhardin? La silhouette au visage encapuchonné était entièrement enrobée de pénombre. Dans 18 minutes standard, le monde d'Evansgate va tomber entre les mains des extros. Nos prophéties disent qu'il sera détruit. Son réseau distrans le sera certainement, et ses méga-transmetteurs également. En tout état de cause, cette planète, pour nous, aura cessé d'exister. Exactement 1 heure standard plus tard, le ciel du bosquet de Dieu s'embrasera sous les feux de fusion des vaisseaux extros. Toujours d'après nos prophéties, tous les membres de la fraternité qui resteront ici, de même que les autres, bien que tous les citoyens de l'hégémonie aient été évacués depuis longtemps par le réseau distrans, périront. Duré retourna lentement jusqu'à la table en bois de muire. « Il est indispensable que je gagne immédiatement Tossetti Central, » dit-il. « Severn, quelqu'un m'attend là-bas. Je dois m'entretenir d'urgence avec la présidente Gladstone. »« Non, » fit Hardin, « nous resterons ici ensemble. » Nous verrons bien si les prophéties se réalisent. Le jésuite, de frustration, serra les poings, luttant contre l'envie de se jeter sur le templier pour le frapper. Il ferma les yeux et récita 2 Ave. Sans grand effet. « Je vous en supplie, » dit-il, « que je sois là ou ailleurs ne changera rien à l'accomplissement de vos prophéties. Mais pour moi, il sera trop tard. Les vaisseaux torches de la force auront détruit la sphère de singularité et les terminaux distrans n'existeront plus. Nous serons coupés du Reds pour des années. Des milliards de vies dépendent de mon retour immédiat à Tossetti Central. » Le Templier croisa les bras. Ses mains aux longs doigts effilés disparaissaient entièrement dans les plis de sa robe. « Nous attendrons, » dit-il. « Tout ce qui a été prédit se produira. Dans quelques minutes, le Seigneur de la douleur se répandra dans le Retz. Je ne partage pas la croyance de l'évêque selon laquelle ceux qui ont pratiqué l'expiation seront finalement épargnés. Nous serons mieux ici perdurés. La fin sera plus rapide et sans douleur. » Duré chercha, dans son esprit fatigué, un argument décisif à lui opposer, mais n'en trouva pas. Il contempla la silhouette encapuchonnée qui se tenait devant lui. Le monde forêt du bosquet de Dieu frémit une dernière fois sous la brise du soir, puis sembla retenir son souffle en attente de ce qui allait suivre. Le père Duré ferma les yeux
et pria